des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous cette semaine? Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M qui produit ce balado qui vous présente un épisode par semaine que vous pouvez écouter n'importe quand sur n'importe quelle plateforme. Il suffit de faire des livres plein les oreilles et vous allez voir dans votre moteur de recherche, vous allez avoir l'occasion de pouvoir l'écouter là où vous voulez, y compris YouTube, Spotify et compagnie, et évidemment Canal M où je suis en ce moment dans le studio et qui produit cette émission-là. Cette semaine, on va commencer par une épopée pas très glorieuse, mais absolument passionnante à lire, à écouter, celle des dessous des drôles de façons de faire de notre fleuron national industriel, j'ai nommé SNC-Lavalin. Je m'étonne qu'un film ne soit pas encore né d'ailleurs de cette gigantesque et coûteuse ignominie, car c'en est une. C'est une enquête de Vincent Larouche, c'est passionnant, c'est incroyable, tellement incroyable qu'on pense d'ailleurs que c'est de la fiction, mais c'est pire que le pire des scénarios et ce n'est pas de la fiction et c'est lu par Vincent Larouche lui-même. Aussi à l'émission pour les plus jeunes, il faut à tout prix que je vous fasse découvrir Léo et les orphelins de Paris de Thibaut Bérard, qui va nous conduire dans l'univers de l'orphelin. Il va d'abord y avoir Les Orphelins de Paris de Thibaut Bérard et puis ensuite je vais vous emmener dans l'histoire d'un autre orphelin, celui que fut Billy the Kid. Et c'est deux univers différents, mais on est là dans le thème de l'orphelinat. J'ai aussi d'autres livres en nomination au prix Audiolib à vous proposer, au moins un, peut-être deux, si le temps me le permet. Et comme le 16 mai est la journée internationale du vivre ensemble et de la paix, vous entendrez deux extraits de textes assez inoubliables de deux époques différentes, « Guerre et paix » de Tolstoï et « Nos cœurs invincibles », une correspondance entre une étudiante d'Israël et une étudiante de Gaza. On va finir bien sûr tout ça par des nouveautés comme toujours. Alors attention, ceci n'est pas un roman, il s'agit de l'histoire vraie d'une des plus grandes multinationales québécoises et de l'empire de corruption que ses dirigeants ont érigé autour du globe avec l'appui de qui? Eh bien de dictateurs et d'oligarques. On va même jusqu'à embaucher des mercenaires qui vont s'occuper ça parle de prostitution, parce qu'on sait qu'on va avoir affaire à ces dames, on va les payer grassement, on va les utiliser, on va les faire souffrir, on va payer des pots de vin, on va fournir des faux documents, on va truquer des livres même. Bref, pour les cadres, certains cadres, j'insiste là-dessus, de SNC-Lavalin, parce qu'il ne faut pas faire payer notamment tout le personnel qui a travaillé et qui travaille encore dans cette immense machine. Et Dieu sait s'ils ont fait des choses aussi absolument remarquables. Alors, il faut faire attention à ça. Mais tous ceux qui sont tournés autour de la corruption et des horreurs dont il est question dans ce livre étaient absolument excellents aussi dans ce qu'ils faisaient. Et surtout, ils étaient dans les bonnes grâces du gouvernement canadien. Ben oui, alors ils faisaient gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens très influents dans nos gouvernements. Un stratagème qui semblait parti pour durer longtemps, éternellement même, jusqu'à ce que trois équipes d'enquêteurs qui ont vraiment été acharnées au Canada, en Suisse et aux États-Unis remontent une filière de réseaux financiers occultes basés dans les paradis fiscaux, au bénéfice de qui? De barons de la drogue, de dictateurs et de multinationales. Ils vont suivre la piste de l'argent, ils vont contribuer à mettre à jour un réseau criminel tentaculaire qui partait du siège social de Montréal. Alors écoutons un extrait et nous voici, tiens, dans un avion. Ça peut commencer comme ça.
Quelque part au-dessus de l'Atlantique, 2011. Ils veulent un contrat de 10 milliards de dollars dans son pays. Gary Peters, mercenaires et gardes du corps. Monsieur, quelque chose à boire? L'homme à la moustache leva les yeux vers l'hôtesse de l'air, plus mal à l'aise que jamais dans son siège. Il frissonnait. Son épaule gauche lui faisait atrocement mal. Le tampon menstruel qu'il avait inséré dans sa plaie ouverte pour freiner le saignement avant le vol tenait bon, pour l'instant. Mais il ne faisait rien pour diminuer la douleur. embarqué sur un vol transatlantique avec une blessure par balle non traitée, était décidément une mauvaise idée. Oui, ce serait probablement bien de boire quelque chose, se dit Gary Peters. C'était le 29 août 2011. Le vol 877 d'Air Canada avait quitté Francfort, en Allemagne, depuis plusieurs heures, mais il semblait avancer à la vitesse d'un escargot. Il restait encore un bon moment avant que l'avion arrive à l'aéroport Pearson de Toronto. Et pour couronner le tout, Gary Peters se sentait malade. Il avait dû attraper un virus en Afrique du Nord. Malgré sa petite taille, le moustachu en imposait. Costaud, trapu, arborant un tatouage impressionnant sur son avant-bras musclé, le poignard ailé, symbole des forces spéciales de l'armée australienne. Autour de lui, dans l'avion, les passagers revenaient pour la plupart d'agréables vacances en Europe ou de voyages d'affaires. Ils étaient insouciants. Ils ne pensaient pas aux guerres que menait leur gouvernement à l'autre bout du monde. Ils ne savaient probablement même pas ce qui se passait en Libye en ce moment même. Lui, Gary Peters, le mercenaire globe-trotteur, le savait. Pendant plus de 40 ans, le dictateur extravagant Muammar Kadhafi était demeuré bien en selle à la présidence de la Libye en s'appuyant sur les milliards de la manne pétrolière. Avec cet argent, il pouvait engager des gens comme Gary Peters. Le système avait commencé à chanceler avec l'avènement du printemps arabe et l'exemple des pays voisins, où les régimes autoritaires tombaient les uns après les autres. Une révolution avait éclaté le 15 février 2011. La situation avait dégénéré en guerre civile. Kadhafi, le vieux despote, s'accrochait, même si l'OTAN avait lancé une campagne de bombardement en appui aux insurgés. Le pays était à feu et à sang. C'était SNC-Lavalin, le fleuron québécois du génie conseil, qui avait d'abord envoyé Gary Peters risquer sa vie dans ce bourbier au mois de juillet. Au siège social montréalais de l'entreprise, on n'avait pas lésiné sur les moyens. Peters et ses acolytes avaient reçu plus $1 million pour louer un jet privé, recruter un commando d'ex-militaires et les équiper pour la guerre. L'entreprise montréalaise avait besoin de gens qui n'avaient pas peur de la violence et Peters savait où les trouver.
Ça et tout le reste, parce que si vous saviez tout ce qu'il y a dans ce bouquin... On s'arrache les cheveux, quoi. C'est vraiment... Alors, ne manquez pas ça, c'est en livre audio et ça s'appelle simplement la saga SNC-Lavalin, un thriller géopolitique. On change complètement de sujet, place aux jeunes et aux moins jeunes, peut-être aux jeunes ados ou à ceux qui vont le devenir d'ici quelques semaines, avec Léo et les orphelins de Paris de Thibaut Bérard, un texte tellement intelligent qui nous présente la petite Léopoldine qui vit dans un hôtel particulier avec son père à Paris, mais en octobre 1870. Et bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais le papa disparaît et là débute la grande aventure de Léo, qui est un personnage plein de tendresse, qui sera, qui au départ, c'est celle d'une tragédie. C'est la tragédie des enfants héros du 19e siècle, la tragédie encore là des orphelins, des enfants séparés, des protecteurs aimants et placés sous la griffe de tuteurs qui souvent sont... complètement cruels et immoraux. C'est la morale sectaire, c'est tout ça, cette époque-là. Et quel autre pire cauchemar pouvait enflammer l'imagination des enfants lecteurs de cette époque à qui on ne racontait pas les horreurs de la guerre ? Ces enfants-là étaient livrés à eux-mêmes et étaient livrés à leur quotidien. Et leur quotidien, c'était souvent chasser du rat pour se nourrir. C'est fou, mais c'était comme ça. Alors c'est sur fond de cette histoire vraie, parisienne, mais qui peut ressembler à tant d'autres, on pourrait penser à une histoire de Charles Dickens qui serait passée à Londres à ce moment-là, que cet auteur, qui s'appelle Thibaut Bérard, a créé Léo et les orphelins de Paris.
Les personnages. Léopoldine Verdure, à 11 ans, Léopoldine n'aime rien tant que laisser son imagination la mener par le bout du nez. Son rêve, devenir comédienne de théâtre. Archibald Verdure. Sous ses airs de savant distingué, le père de Léopoldine est aussi rêveur que sa fille. Il travaille à une importante découverte scientifique amorcée par son épouse. Bessie. D'origine britannique, la gouvernante de Léopoldine cache derrière sa silhouette imposante beaucoup de douceur et une fidélité sans faille pour sa protégée. Eugène Verdure, dit l'oncle. Il est le frère aîné d'Archibald. Avide, brutal et dénué de scrupules, il est prêt à tout pour faire fortune. Absolument tout. Le gorille. Le majordome de l'oncle parle peu. Mais sa carrure de mastodonte suffit à imposer le silence. C'est un colosse, aux mains capables de tordre l'acier. Le clan des maraudeurs. Jacek, Gaspard, Jeanne et Anatole sont des enfants des rues. Chacun a sa personnalité et ses talents. Jacek, le chef, beau garçon aux yeux verts, est un acrobate né. Gaspard, surnommé par Léo, le garçon à tête de citrouille, a toujours le mot pour rire et des mains très habiles pour dérober les portefeuilles des bourgeois. Jeanne est une force de la nature, fonceuse et bagarreuse. Quant à Anatole, c'est l'intellectuel du groupe, un vrai puits de science. Nous sommes à Paris en octobre 1870. Napoléon III, qui dirigeait la France depuis 1852, durant le célèbre Second Empire, vient d'abdiquer après sa défaite face aux Prussiens. Il y a quelques semaines, Léopoldine Verdure vivait encore avec son père, chimiste de renom, dans un bel hôtel particulier de Paris. Hélas, l'oncle Eugène a sonné à la porte un soir, avec ses mauvaises manières et son ton bourru, et s'est invité chez eux. Depuis, le père de Léopoldine a été retrouvé mort, empoisonné, dans son laboratoire. Et Léopoldine a dû s'enfuir de sa propre maison pour échapper à cet oncle maléfique qui convoite les recherches scientifiques de M. Verdure. Livrée à elle-même, Léopoldine a décidé de se déguiser en Léo, garçon des rues, pour passer inaperçu. Mais comment survivre en plein hiver sans toit au-dessus de la tête? Heureusement, elle a rejoint les Maraudeurs, un groupe d'orphelins de son âge très doués pour la débrouille. Avec leur aide, Léo reprend espoir. Elle vengera son père. Paris, décembre 1870.
Eh ben, mon gars, t'es encore en train de rêver? On fait pas le gobe-mouche quand on est un maraudeur.
Surprise par la voix de Jacek, Léo secoue la tête en signe de protestation. Mais pas trop fort. Il ne faudrait pas que ses longs cheveux se dénouent sous sa casquette et la trahissent. Elle reprend une démarche assurée, trottinant entre Jacek et Anatole dans les rues de Belleville. Depuis trois semaines, Léo est un maraudeur aux yeux de ses amis. Et elle compte bien le rester. Jacek, Anatole, Gaspard, Jeanne. Tous les membres du clan la prennent pour un garçon. Ils en tomberaient sur les fesses s'ils apprenaient qu'elle est une fille.
Comme quoi on peut faire du didactique et du divertissant en même temps, c'est vraiment très bien fait. Faites écouter cela à vos enfants. Je vous rappelle le titre de ce livre audio, Léo et les orphelins de Paris. Ça a été fait par qui? Ça a été fait par Actes Sud Audio. Non, c'est pas vrai du tout. C'est celui d'Audio. Ça a été fait par Audiolib, excusez-moi. Comme je vous le dis toujours, vous pouvez aller chercher ces livres-là directement chez ceux qui les produisent. Vous faites Audiolib, Léo et les orphelins de Paris, et vous allez tomber sur ce bouquin-là, ou sinon vous allez sur les plateformes de livres audio. Parlons d'orphelins. Billy the Kid. Qu'est-ce qu'on sait finalement de la vie de ce gamin, si ce n'est qu'il a tué très tôt? On ne connaît que des fragments de son existence. Il faut dire qu'elle a été courte. Hein. Il est mort à 21 ans, Billy the Kid. Et il y a très peu de documents, ou du moins, il y a des documents, mais qui se sont complètement effacés derrière le mythe. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Éric Vuillard, qui a décidé d'aller faire des recherches et qui a écrit « Les orphelins, une histoire de Billy the Kid », c'est lu par Denis Podalides. Où là, ben, en fait, il choisit un peu de mettre Billy de côté et dresse surtout la galerie de personnages qui l'ont approché. qui ont approché ce hors-la-loi, parce que c'est comme ça qu'on le traitait, qui l'ont approché de près ou de loin. Il y a notamment le fameux Pat Garrett. Alors, à travers toutes ces figures-là, ce qu'on nous dit dans des résumés et dans des critiques que j'ai lues à droite et à gauche, c'est que l'auteur démystifie l'Amérique épique et tragique des westerns pour nous proposer une vision un peu plus réaliste et cynique et presque pathétique de l'Amérique. Déjà à l'époque. Je referme la parenthèse. Et bref, voilà, c'est une Amérique de désespérés, de desesperados, qui vivent au jour le jour et qui essaient de trouver leur place dans un monde en pleine mutation. Alors, écoutons un extrait de la légende de Billy the Kid de Vuillard. C'est lu, je vous le rappelle, par Denis Podalydès.
À 17 ans, il tua son premier homme. C'est alors que sa vie commence. Les circonstances sont incertaines. Il paraît que l'homme s'appelait Kyle et travaillait comme forgeron à Camp Grant. Le lendemain, le juge de paix fut appelé pour enregistrer par écrit la déposition que voici. Moi, Frank Kyle, convaincu que je vais mourir, je fais ce dernier témoignage. Mon nom est Frank P. Kyle. Je suis né dans le comté et le village de Galway, Irlande. Hier, 17 août 1877, j'ai eu une dispute avec Henry Antrim, qu'on appelle également le Kid, durant laquelle il m'a tiré dessus. Je l'ai traité de maquereau et il m'a appelé fils de pute. Nous nous sommes alors bagarrés, je ne l'ai pas frappé, je l'ai vu essayer de prendre son arme et j'ai tenté de la saisir, mais je n'ai pas pu et il m'a tiré dans le ventre. Si l'on veut tenter de comprendre ce qui se produisit le 17 août 1877 à Camp Grant, on ne peut pas se contenter de cette déposition. On ne peut pas s'en tenir à la silhouette du jeune malfrat, le Kid, et au personnage du respectable forgeron, Frank P. Kyle, tel que la tradition nous les livre. On ne peut pas se contenter de ces rôles faits sur mesure, un honnête artisan buté par un voyou. Frank P. Kyle était un ancien soldat. C'était un homme robuste, rompu au maniement des armes. Il avait 15 ans de plus que Billy, et avait participé à de sérieuses campagnes militaires. Il avait été impliqué dans l'un des plus sinistres épisodes des guerres indiennes à peine 5 ans plus tôt. La troupe avait pris silencieusement position autour d'une grotte où une tribu avait trouvé refuge. Les soldats s'étaient tenus des heures en embuscade, ils avaient abattu tous les peaux rouges qui tentaient de fuir. Enfin, pénétrant dans la grotte, ils exterminèrent les derniers survivants. Le capitaine note dans son journal: partout, il y avait des femmes et des hommes morts, ou se tordant dans les agonies de la mort, et avec eux plusieurs nouveau-nés, tués par nos balles. Il y eut 94 Indiens abattus et une seule victime parmi les soldats. Leurs cadavres restèrent sans sépulture pendant un demi-siècle, et l'endroit fut baptisé « Grotte des squelettes ». Mais n'en restons pas là et regardons encore Kyle de plus près, encore plus près. Frank Kyle, ou bien Windy, comme on l'appelait à cause de son caractère ombrageux, tenait boutique à 2 pas du saloon d'Atkins. Les habitués surnommaient cet établissement le Hog Ranch, autrement dit la porcherie. Ce n'était en réalité rien d'autre qu'un bordel. Quant à la boutique de Kyle, on ignore au fond s'il s'agissait vraiment d'un atelier de forgeron, puisque « blacksmith », en argot de la frontière, cela signifie « souteneur », que cette boutique jouxtait l'établissement d'Atkins et que les deux hommes s'estimaient et se fréquentaient. À ce stade, on peut déjà raisonnablement douter de la version officielle, celle du bon artisan tué par un voyou. Mais la distribution n'est pas encore complète. On raconte que le crime eut lieu à 2 pas de l'hôtel Luna, dont le propriétaire n'est autre que Miles Leslie Wood, le juge de paix qui dressera le fameux procès-verbal « Moi, Frank Kyle, convaincu que je vais mourir » et dont le récit incrimine résolument le Kid. Afin de bien saisir, derrière la fonction de juge de paix, le personnage de Wood, il faut savoir que l'hôtel Luna hébergeait avant tout des nuées de prostituées venues de Tucson et toutes sortes de clients occasionnels, soldats en permission, truands fréquentables. Le juge de paix était donc, lui aussi, un patron de bordel. C'est au milieu de ces bons citoyens, dans ce décor inquiétant et misérable, qu'il faut imaginer le kid. Il a 17 ans. Il est orphelin et il n'est pas d'ici. Face à lui, la ville forme un seul et même organisme.
Well, one cold day a posse captured Billy. And the judge said, string him up for what it did. And the cowboys and their kin, like the sea came pouring in to watch the hanging of Billy the Kid.
Très intéressant ce portrait de Billy the Kid. On passe complètement à autre chose. Je vous ai promis de vous présenter les livres en lice pour le prix Urdioli 2026. En voici un autre aujourd'hui, Toutes les vies de Rebecca Warrior. C'est un, je ne sais pas pourquoi je mets l'accent anglais, parce que c'est Warrior, c'est une Française. C'est un premier roman, c'est l'histoire d'une femme qui accompagne son amie, sa blonde, sa douce, sa moitié, dans la bataille qu'elle mène contre le cancer. Ça va aller jusqu'à la rémission, puis le cancer va revenir et va finir par l'emporter. Alors, Pauline va vivre des semaines, des jours, des heures de souffrance, où chaque minute, nous dit-on dans le résumé, est comme une éternité et où l'espoir s'efface seconde après seconde. Extrait de Toutes les vies de Rebecca Warrior.
À Chacawa, les moustiques étaient nombreux cette année-là et une épidémie de chikungunya nous était tombée sur la tronche. Panique au village. Le chikungunya provoque des fièvres et des douleurs articulaires. Ça ressemble un peu au palu. Tout le monde s'était barré en catastrophe. Pauline l'avait attrapé avant que nous puissions fuir. À vrai dire, tous ceux qui étaient restés l'avaient attrapé, à part moi. En général, les moustiques m'ignorent pour je ne sais quelle raison. J'ai lu dans un magazine sur les insectes que c'est la température du corps et les odeurs qu'ils dégagent qui les attirent plus ou moins. J'expliquerai pourquoi plus tard, mais je pense que j'ai le sang froid comme un iguane. Donc, le village était constitué de trois catégories de personnes. Les Mexicains, les Baptous, c'est-à-dire les Blancs restés bloqués sur l'île depuis les années 60, et les touristes. En l'occurrence, deux touristes pendant l'épidémie, Pauline et moi. Les Baptous, tous des hippies, prétendait que les Américains avaient propagé le virus en lâchant des capsules infectées de chikungunya par avion. Le LSD à haute dose rend les gens complotistes, je l'ai remarqué plusieurs fois, mais je ne l'ai lu dans aucun magazine. Les fièvres de Pauline, dues au chikungunya, lui avaient fait oublier la douleur initiale au sein. Je la soignais, épongeais sa sueur, lui donnais de l'eau à boire. C'est compliqué de faire tomber la fièvre quand il fait 40 degrés à l'extérieur. Elle avait perdu beaucoup de poids, et chaque fois que je rentrais à la cabane, elle avait rajouté des pulls et des couvertures sur elle sans se rendre compte qu'elle était en nage. Une nuit, dans notre bicoque sur la plage, j'ai fait un drôle de cauchemar. La mort contournait la moustiquaire et tentait perfidement de s'introduire dans notre lit. C'était une femme, au visage très pâle, habillée exactement comme la mort dans le 7e sceau d'Igmar Bergman, c'est-à-dire d'un grand drap noir très bien repassé. J'ai une vision de la mort très académique et nordique. Je devais être attentive et border correctement le tissu pour ne pas qu'elle entre. Mais la salope était très rapide, très discrète, et moi j'étais un peu groggy par le sommeil, la fatigue et la chaleur. Elle attendait, tapie dans l'ombre, que je m'assoupisse pour s'infiltrer dans le lit et prendre Pauline. C'était elle qu'elle voulait. Elle s'en fichait de moi. Je lui mettais des bâtons dans les roues, ça ne lui plaisait pas. Elle était immobile, me fixait, puis soudain bougeait rapidement, avec des mouvements précis, proches de ceux d'une tarentule. La mort n'avait pas moyen de soulever d'elle-même la moustiquaire. Elle attendait que l'on crée des interstices en bougeant dans notre sommeil. Elle ne semblait pas pouvoir toucher les objets, elle pouvait seulement s'immiscer sournoisement. Elle devait compter sur sa vivacité, son intelligence et mon manque d'attention pour se glisser dans notre lit. Je passais la nuit à monter la garde. La mort était mécontente. Elle avait la respiration haletante. Au petit matin, je m'étais assoupie. Elle était venue souffler près de mon visage. J'avais hurlé de frayeur. Elle avait murmuré quelque chose, mais je n'avais pas compris quoi. Elle parlait latin ou suédois, juste pour me faire chier.
Oui, Rebecca Warrior, c'est la voix de l'autrice qu'on vient d'entendre. C'est elle-même qui est la lectrice de ce livre « Toutes les vies », qui est donc en nomination pour les prix Audiolib 2026, ainsi que les Évaporés du Japon, enquête sur le phénomène des disparitions volontaires de Léna Maugère. C'est lu par Juliette Havert. On nous dit ceci: chaque année, quelques 100 000 Japonais s'évaporent sans laisser de traces. 100 000 ! Débarrassés de leur passé, ils tentent de refaire leur vie en passagers clandestins de l'archipel, une vie qui est très souvent pas très glorieuse. Extrait.
Excusez-moi de vous approcher de cette manière. C'est à propos des gens qui disparaissent au Japon. Les Joatsu. Mon père, Junichi Murai, a disparu. Je suis à la recherche de ma sœur. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle depuis 10 ans. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était à Shinjuku. Ces messages sont arrivés via mes réseaux sociaux ou ceux de mon compagnon, le photographe Stéphane Remael. Pendant 5 ans, au cours de divers séjours, nous avons cherché des disparus et leurs proches dans l'archipel japonais. Et maintenant, ce sont eux qui viennent à nous. Ils ont lu la traduction de l'un de nos articles, interviews ou de la première édition du livre que vous tenez entre les mains. Ils nous écrivent comme on glisse un petit papier roulé dans une bouteille à la mer. Il nous arrive encore d'en recevoir. Je ne peux que les décevoir. Je n'ai pas le pouvoir de faire réapparaître leurs proches. Des personnes disparaissent en France et partout ailleurs, mais le Japon est le pays qui compte le plus d'évaporés au monde. 100 000 cas chaque année, comme si les habitants d'une ville entière s'évanouissaient. Certains sautent d'une falaise, se perdent pour l'éternité, d'autres se fondent dans l'anonymat des villes. Le phénomène raconte la part d'ombre du Japon. Il nous parle aussi de nos fantasmes les plus enfouis, les plus inavouables. Le désir de tout recommencer, libéré de nos chaînes, sans laisser de traces. La peur viscérale de mettre ce projet secret à exécution, parce que les enfants, la famille, la culpabilité de blesser celles et ceux que nous aimons, et les échappatoires ou les parades que chaque être humain trouve pour vivre plusieurs identités à la fois, et repousser la mort. Le mensonge, les doubles vies, la littérature, les faits divers.
Au fond, très intéressant cet essai qui est aussi parmi les titres en nomination pour le prix Audiolib 2026, dont je vous rappelle le titre, Les Évaporés du Japon, enquête sur le phénomène des disparitions volontaires de Léna Maugère, lue par Juliette Havert. C'est un autre épisode du balado des livres plein les oreilles, animé par Clotilde Seille, que vous écoutez, qui vous retrouve dans quelques secondes. La Journée internationale du vivre ensemble en paix est célébrée chaque année le 16 mai. Ça a été proclamé par l'ONU en 2017. Et sur le site de l'ONU, on peut lire ce papier, cette présentation en quelque sorte, de cette journée du vivre ensemble en paix, unie dans la différence et dans la diversité. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution AREES 72-130, proclamant donc que la journée du 16 mai serait la journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Cette journée qui est un moyen, nous dit-on sur ce site, de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Puissent certains chefs d'État vous entendre. En attendant, extrait de Guerre et paix de Léon Tolstoï, le tome 3.
Les éditions Sixtride présentent Guerre et paix, livre 3, de Léon Tolstoï. interprété par Eric Herson-Macarel.
À la fin de l'année 1811, les souverains de l'Europe occidentale renforcèrent leurs armements et concentrèrent leurs troupes. En 1812, ces forces réunies, qui se composaient de millions d'hommes, y compris et ceux qui les commandaient et ceux qui devaient les approvisionner, se mettaient en marche vers les frontières de la Russie, qui, de son côté, dirigeait ses soldats vers le même but. Le 12 juin, les armées de l'Occident entrèrent en Russie et la guerre éclata. C'est-à-dire qu'à ce moment, eut lieu un événement en complet désaccord avec la raison et avec toutes les lois divines et humaines. Ces millions d'êtres se livraient mutuellement aux crimes les plus odieux, meurtres, pillages, fraudes, trahisons, vols, incendies, fabrication de faux assignats. Tous les forfaits étaient à l'ordre du jour, et en si grand nombre que les annales judiciaires du monde entier n'auraient pu en fournir autant d'exemples pendant une longue suite de siècles. Et cependant, ceux qui les commettaient ne se regardaient pas comme criminels. Où trouver les causes de ce fait aussi étrange que monstrueux? Les historiens assurent naïvement qu'ils les ont découvertes dans l'insulte faite au duc d'Oldenbourg, dans la non-observation du blocus continental, dans l'ambition effrénée de Napoléon, dans la résistance de l'empereur Alexandre, dans les fautes de la diplomatie, etc., etc. Il aurait donc suffi, s'il fallait les en croire, que Metternich, Roumiantsov ou Talleyrand eussent rédigé, entre une réception de cour et un raout, une note bien tournée, ou que Napoléon eût adressé à Alexandre un « Monsieur mon frère, je consens à restituer le duché d'Oldenbourg » pour que la guerre n'eût pas lieu. On conçoit aisément que tel devait être le point de vue des contemporains. Ainsi qu'il l'a dit plus tard à Sainte-Hélène, Napoléon attribuait exclusivement la guerre aux intrigues de l'Angleterre, tandis que de leur côté, les membres du Parlement anglais donnaient pour prétexte son ambition insatiable. Le duc d'Oldenbourg, l'insulte dont il avait été l'objet. Les marchands, le blocus continental qui ruinait l'Europe. Les vieux soldats et les généraux, l'absolue nécessité de les employer activement. Les légitimistes, le devoir sacré de soutenir les bons principes. Les diplomates, l'alliance austro-russe de 1809, que l'on n'avait pas su dissimuler au cabinet des Tuileries, et la difficulté que présenterait la rédaction d'un mémorandum portant par exemple le numéro 178. Ces raisons, jointes à une foule d'autres, d'une nature plus infime et provenant de la diversité des points de vue personnels, ont pu sans doute satisfaire les contemporains. Mais pour nous qui sommes la postérité, et qui envisageons dans son ensemble la grandeur de l'événement et qui en approfondissons la vraie raison d'être dans sa terrible réalité, elle ne saurait nous paraître suffisante. Nous ne saurions comprendre que des millions de chrétiens se soient entretués parce que Napoléon était un ambitieux, parce qu'Alexandre avait montré de la fermeté, l'Angleterre de la ruse, ou parce que le duc d'Oldenbourg avait été insulté. Où est donc le lien entre ces circonstances et le fait même du meurtre et de la violence? Pourquoi les habitants des gouvernements de Smolensk et de Moscou ont-ils été, en conséquence de semblables motifs, égorgés et ruinés par des milliers d'hommes venus du bout opposé de l'Europe? Nous ne sommes pas des historiens, et nous ne nous laissons pas entraîner à la recherche plus ou moins subtile des causes premières. Aussi nous contentons-nous de juger les événements avec notre simple bon sens. Et plus nous les étudions de près, plus nous leur trouvons de motifs véritables.
L'écriture de Tolstoï est la réalité de l'époque fin napoléonienne, qui est encore la même exactement aujourd'hui. Et parlons-en d'aujourd'hui. Je vous propose quelque chose de très touchant. Je vous le dis tout de suite. Nos cœurs invincibles, correspondance entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël. C'est Dimitri Krier qu'on va entendre qui est à l'origine de cette rencontre épistolaire-là Et plutôt que de vous présenter tout ça en détail, eh bien, on va l'écouter, Dimitri Crière, nous raconter le pourquoi du comment. Et ensuite, on va entendre ces deux jeunes étudiantes qui ne se connaissent pas, qui ont été élevées toutes les deux dans la haine de l'autre, l'une à Gaza et l'autre en Israël.
Les 14 lettres qui suivent sont un échange totalement inédit. Depuis le 7 octobre, aucune autre correspondance publique entre Gaza et Israël n'existe. Elles sont un exutoire pour ces deux femmes, un geste politique aussi, mais elles ont surtout permis d'ouvrir le dialogue quasi inexistant entre Gaza et Israël. Cette correspondance n'a pas pour but de soutenir un camp, mais de comprendre l'autre. Elle s'inscrit dans une dynamique bien plus large, et que beaucoup tentent en vain de faire triompher depuis des décennies, celle de la paix.
Deir el-Balah, Gaza, Palestine, 11 mars 2024. Cher Michel, ton nom est la seule chose que je connais de toi pour l'instant. Moi, je m'appelle Tala. Jamais je n'ai imaginé parler un jour à une Israélienne. Encore moins faire ta connaissance alors qu'une guerre est en cours contre mon peuple. Lorsqu'on m'a proposé de t'écrire une lettre, je me suis sentie mal sur le moment, effrayée par l'idée de coopérer inconsciemment avec l'ennemi et de trahir les miens. Je crains que cette conversation me mette en danger, ainsi que ma famille. Mais j'ai quand même décidé de t'écrire. D'abord pour te raconter ce que je vis depuis 5 mois maintenant, et surtout pour honorer mon ami Youssef Dawas, tué le 14 octobre par une bombe israélienne. Il n'avait que 20 ans et rêvait de devenir thérapeute. C'était mon camarade d'université. Nous nous retrouvions régulièrement devant l'hôpital Al-Shifa pour aller ensemble en cours. Je suis née à Gaza City il y a 20 ans. Je n'ai jamais quitté l'enclave, qui est une vraie prison à ciel ouvert, tu sais. À l'université, j'étudie le droit. Pendant mon temps libre, j'écris. Les gens disent de moi que je suis un vrai rat de bibliothèque. Avant la guerre, je travaillais du matin jusqu'au soir. Puis, une fois rentrée chez moi, j'adorais dévorer un énième livre, tout en buvant du thé vert, ma boisson préférée. Je pourrais te parler des heures de mon université. Elle est si belle. On y entend le chant des oiseaux, le bruissement des arbres. On y respire l'air frais, et on y trouve des espaces agréables où se reposer. Maintenant, il faudrait que j'écrive ces mots au passé, car il n'en reste qu'un tas de ruines. Quant à mon diplôme, que j'étais censée obtenir l'an prochain, je ne sais pas quand je pourrai le décrocher.
Zoran, Israël, 25 mars 2024. Cher Tala, je te remercie pour ta lettre. Bien que je n'habite qu'à quelques kilomètres de Gaza, je n'ai jamais parlé à quelqu'un de là-bas. Premièrement, je souhaiterais te dire que je suis désolée de ce que tu vis et t'exprimer mes plus sincères condoléances pour la perte de ton ami, Youssef Dawas. Que sa mémoire soit honorée. Le 7 octobre au matin, j'ai appris qu'il y avait eu une attaque sur le sol israélien. Avec mon petit ami, nous nous sommes précipités dans notre abri antimissile. Nous y sommes restés enfermés pendant près de 2 jours, sans électricité ni réseau téléphonique. Nous entendions des coups de feu et des roquettes à l'extérieur sans pouvoir ni voir ni comprendre ce qui se passait. Le père et la sœur de mon petit ami sont finalement venus nous chercher et nous ont mis en sécurité dans le centre d'Israël. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu les corps sur le sol. J'étais horrifiée. As-tu entendu parler de ce qui s'est passé en Israël ce jour-là? Qu'as-tu ressenti? Des Israéliens ont terriblement souffert. Nous ne nous en sommes toujours pas remis. Des familles ont été brutalement tuées, kidnappées. Et il y a encore des otages israéliens à Gaza dont on ignore l'état de santé. Je connais personnellement l'un d'entre eux et je prie tous les jours pour qu'ils reviennent sains et saufs. Dans mon quartier, les premières victimes des massacres du 7 octobre sont un groupe de personnes âgées d'une maison de retraite. Près de chez moi, au kibboutz de Be'eri, Viviane Silver, qui était pourtant une militante pacifiste de longue date, a été tuée. Peux-tu me dire ce que les habitants de Gaza pensent de ces victimes innocentes, prises dans une guerre qu'elles n'ont jamais voulu ? Je ne comprends pas que des personnes utilisent les actions et les décisions du gouvernement israélien pour justifier la violence à l'égard des civils. Ce mode d'action ne peut être une réponse à l'occupation. Si je comprends la nécessité de la résistance palestinienne, j'estime qu'elle ne doit pas viser des innocents. Il est aussi vrai que de nombreuses personnes en Israël sont, depuis le 7 octobre, incapables de voir au-delà de leur propre douleur et de comprendre ce qui se passe à Gaza. Il leur est difficile d'éprouver de la compassion pour les habitants de Gaza, surtout après avoir vu des vidéos dans lesquelles des Palestiniens célébraient l'attaque du 7 octobre. Moi, je ne crois pas que nous soyons ennemis.
Si vous êtes comme moi, vous en auriez pris plus encore, certainement. Il ne s'agit pas ici de prendre en faveur d'un tel ou d'une telle ou d'une telle, évidemment pas, mais peut-être de nous rapprocher un peu de ces deux réalités qui, là, pour une fois, ne s'ignorent pas. Et vraiment, je trouve ça tellement intéressant. Je vous rappelle le titre de ce livre d'abord, qui est devenu maintenant un livre audio, disponible depuis octobre 2025, « Nos cœurs invincibles, correspondance entre une étudiante à Gaza et une étudiante en Israël ». C'était la voix de Dimitri Krier au début qu'on a entendu, qui est ce journaliste du Nouvel Obs qui a initié cette rencontre épistolaire. Et les voix de Michel Amzalak et Tala Albana étaient celles de Elissa Aloula à la narration et Dea Liane. Ouh, nos cœurs invincibles, ouais, un jour de paix. Et puis, vite fait, quelques nouveautés, notamment de Michel Bussy, qui est un auteur que tout le monde aime, autant en Europe qu'ici. C'est un des bons vendeurs également au Québec. Michel Bussy, qui revient à l'essence de son art, avec un suspense psychologique haletant, un huis clos oppressant, une intrigue savamment orchestrée, où rien n'est jamais ce qu'il paraît être. Ça s'appelle « Que la mort nous frôle ». Ça nous emmène près de Lausanne en 1953, auprès de Jeanne, qui est une jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes. Et puis, il y a aussi un pensionnat qui accueille des adolescents en difficulté. Il y a un petit rescapé des camps nazis qui s'appelle Fausto dans ce livre-là. Et puis, il y a des événements troublants qui secouent le manoir où sont pour l'instant garder des petits orphelins qui ont échappé notamment au ghetto de Varsovie. Il y a des enfants qui disparaissent, il y a des statues qui changent de place. Et puis, il y a aussi des secrets dans ce manoir, tels que un docteur, le docteur Gruber, pour le moins énigmatique, qui aurait été le médecin qu'on ne voudrait jamais savoir que des médecins comme ça existent. Et ces gens-là sont des voisins de la propriété du célébrissime Charlie Chaplin. L'extrait qui suit fait justement référence à cette maison d'à côté. Quand je fais c'est parce que ça doit être intéressant tout ça et pas du tout parce que je me demande si Charlie Chaplin n'a pas fait partie de tout ça. Hein. Entendons-nous bien. Extrait de « Que la mort nous frôle ».
L'heure est venue, je crois, de raconter mon histoire. Si je ne la raconte pas, tout va s'oublier. Tout s'oublie déjà. Il y a eu tant de morts depuis. Je ne sais plus qui est encore vivant aujourd'hui. Je sais juste que moi, je le suis. J'ai survécu pendant toutes ces années. Je ne vais pas vous révéler mon nom, pas tout de suite. Je vous laisse le deviner. J'avais de si beaux rêves. Des rêves auxquels on croit quand on est jeune. Peut-être à la fin de cette histoire, saurez-vous s'ils se sont réalisés. Je sais que je vais bientôt mourir, moi aussi. Mais accordez-moi ce privilège, le dernier, le seul auquel s'accrochent les personnes les plus âgées. le droit de me pencher sur le cher visage de mon passé.
Jour 1. Que la mort nous frôle. Chapitre 1. Personne ne peut t'entendre, Claudine. Tu peux crier autant que tu le veux, personne ne viendra à ton secours. Claudine était attachée au lit métallique. Des lanières de cuir liaient ses poignets et ses chevilles au sommier. Son corps entravé se tétanisait, douleur et terreur mêlées. Ses larmes stagnaient dans ses orbites, noyant ses yeux noirs abysses dans deux flaques salées. Son visage creusé, ridé par l'effroi, n'avait plus rien à voir avec celui de la jeune fille de 16 ans, resplendissante, qui s'affichait sur la photo tordue entre ses doigts. Un cliché en noir et blanc pris quelques années après la guerre, devant l'hôtel de ville de Strasbourg. Claudine y posait avec sa petite sœur, sa mère Victoire et sa grand-mère Colette. Les séquelles des bombardements de 1944 étaient encore visibles. La place Gutenberg ressemblait à un immense chantier, mais la famille de Claudine paraissait s'en moquer. Elle souriait, quatre femmes, trois générations, libres et vivantes. Le contraste entre la pâleur de sa grand-mère et la peau brune de sa mère était saisissant. Claudine se situait entre les deux, un sage métissage, une touche d'exotisme tolérable même en Alsace, que la jeune fille s'amusait à accentuer. Cheveux crépus, collier de cori et robe swing en wax serrée à la taille.
« S'il vous plaît, » supplia Claudine. « J'ai peur, j'ai tellement peur. »
Le médecin se tenait au-dessus d'elle. Il effectuait des gestes lents, tel un rituel préparé avec précision et scrupuleusement respecté. Il enfonça l'aiguille dans le bouchon de caoutchouc de la fiole ambrée. Le flacon se vida alors que la seringue s'emplissait. « Ne t'inquiète pas, » affirma le médecin. « Tu ne sentiras rien. Tu vas simplement t'endormir et tout sera terminé. » Claudine écarquillait les yeux, terrifiée. Elle avait cessé de se débattre. Les liens étaient trop serrés. Deux plaies rouges suintaient sur ses bras nus, frottées à sang au barreau de son lit. Une silhouette restait en retrait dans la pièce, portant une blouse blanche identique à celle du médecin.
« Wilhelm, sommes-nous vraiment obligés ?»
Le docteur se retourna et dévisagea l'infirmier.
« Ce n'est pas le moment de flancher. Tu savais comment cela se terminerait. »
Et ça commence comme ça. Que la mort nous frôle. Une autre nouveauté, aviez-vous lu de Raphaël Giordano, lu ou écouté « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Eh bien, Raphaël Giordano nous arrive avec un nouveau roman très touchant. L'histoire d'un photographe, Gaspard Palomino, qui voit le beau dans tout ce que nous, on trouve laid quand on se regarde dans une glace et que, ben, qu'on a le corps un petit peu qui n'a pas été épargné par l'âge et par la prise de poids notamment. Et il est en quête d'une inspiration et il va la trouver, cette inespérée, cette inattendue, en la personne d'Adèle, qui est une institutrice divorcée. Elle est drôle, elle est touchante, mais elle est profondément complexée par le reflet de son corps dans le miroir. Alors, ce livre est celui-ci, à travers les yeux de Gaspard. Adèle va-t-elle réussir à s'accepter et à rayonner enfin pour elle-même ?
La beauté de l'âme éclaire plus que celle du corps. Sénèque. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Coco Chanel. Puissions-nous voir en chacun le reflet d'une même humanité, belle dans toute sa diversité. Raphaël Giordano. Chapitre 1. Gaspard joue distraitement avec le miroir en pied ovale posé sur son bureau. Une face normale, une face grossissante. L'objet le fascine. Certains jours, c'est un ami complice, d'autres jours, c'est un juge implacable. Gaspard n'est pas très à l'aise avec sa propre image, mais qu'il l'est. Il y a ceux qui préfèrent éviter leur reflet et tournent le dos à la glace de l'ascenseur ou jettent à peine un regard furtif pour ajuster une mèche ou une cravate. Quelques-uns plus à l'aise peuvent se trouver pas trop mal, sauf les mauvais jours, bien entendu. Les lundis matins, les lendemains de fête, les jours à boutons, les jours à cernes bleues et à teint blafard. Ils ont beau se juger acceptables, ils n'aiment pas leur profil droit ou gauche, ou leur nez, ou leur menton, ou leur grain de beauté en relief. Seule une minuscule minorité se sourit franchement et s'apprécie sans réserve. Enfin, il y a les mitigés, les obnubilés qui se contemplent, se scrutent, se reluquent, tantôt s'admirent ou se détestent. L'insatiable quête de beauté les transforme parfois en narcisses. Ils boivent leur image jusqu'à s'y noyer. Le fantasme de perfection s'invite partout, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, à la télé, au cinéma. Il est inoculé très tôt dans l'inconscient collectif, dans les imaginaires d'enfants. « Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle !» s'inquiète la méchante reine dans le conte des frères Grimm. Gaspard a très vite compris que la beauté était partout survalorisée. À l'école, elle influence la cote de popularité. Plus tard, dans le monde du travail, elle s'invite dans les critères de sélection. Puis c'est dans la société tout entière qu'elle impose sa loi. La beauté bascule despote. Nul n'échappe au culte de l'apparence. Obsession superficielle ? Pas que. Pour lui, la tyrannie de l'image dépasse la simple question de la vanité. Elle exprime le vertige universel du reflet. Celui de chercher, dans le cadre argenté, une validation de soi. Gaspard Palomino en est là de ses réflexions lorsque son téléphone sonne. Il déteste être interrompu en pleine séance de création. Il ne veut pas perdre le fil de ses idées. Pour son prochain shooting photo, il prévoit de mettre en scène de multiples jeux de miroirs. Cette surface lisse qui ne renvoie que ce que l'on est prêt à accepter de montrer de soi le fascine. Or lui, dans ses photographies, il veut aller au-delà pour révéler le relief, l'irrégulier, l'inattendu. Tout ce qui donne de l'âme au corps.
Un thème rassurant, c'est un thème rare, un thème dont on a besoin sans doute. Les miroirs sourient à ceux qui s'aiment, de Raphaël Giordano, lu par Garance Thénault. Ça a été édité par Lizie, L-I-2-Z-I-E. Je vous ai proposé, il y a quelques semaines, les scènes noires d'Akena Okoko et je vous avais promis de vous faire entendre un extrait d'un autre de ses recueils de poésie. Eh bien voilà, il s'agit de Sainte Foi, le résumé radio-canadien, puisque c'est sorti sur le site, sur la plateforme de livres audio de Radio-Canada, Audio. On nous dit ceci, 12 ans passent vite comme 12 heures dans la peau d'un jeune métis mordu de basket qui croit en croire vite comme se faire des amis, quand on déménage vite comme oublier un été de rêve qui ressemble à toutes les autres, vite, 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 vite comme faire une chanson à 12 ou apprendre le sens de la rue. J'habite encore à maison de à côté de cette église brûlée, réaménagée en jardin, à 2 minutes de la dompe municipale, écrit Monsieur Okoko, dont voici, c'est lui qui lit un extrait de sa poésie Sainte Foi.
L'église 1. Mon père est revenu chrétien du voyage de repérage de seconde épouse au Zaïre en 1996. Pour tenir bon en attente de ma deuxième maman, on a commencé à fréquenter les églises. Il y a eu en premier celle au centre-ville, dans un bâtiment aux allures de vieil entrepôt, que j'aimais bien parce qu'il y avait un panier de basket sur place. Pour tuer les 40 minutes de serrage de main avant d'entrer dans la voiture pour retourner à Sainte-Foy. J'avais aussi un valeureux ami avec qui jouer là-bas. Celui d'entre nous plus bâti que tous, qui dominait les ligues depuis secondaire 1, mais trop intelligent pour s'intéresser seulement au basket. On n'est malheureusement jamais retourné à cette église-là. Après que mon père ait lu le discours du roi des Belges Léopold II aux missionnaires du Congo de 1883, à haute voix, sans l'accord du pasteur. Après l'église au panier de basket, on a joint l'église des Congolais. Ici, c'est la musique qui est bien. Et j'ai encore plus d'amis. Mais aucun panier de basket. Aujourd'hui, le pasteur nous a visés, nous, les ados. Avec Colossiens 3, 16. Le mot était « parole ». Son long doigt battait la page de sa Bible comme une percussion le long du sermon. Lui nous bombardait de la parole de Dieu. Et nous, on l'écoutait, lui. Il nous a tous fait visualiser la portion de notre cerveau qui contient des paroles de rap. Ensuite, il nous a incité à les retirer pour laisser de l'espace pour la parole de Dieu. À la prochaine.
Merci beaucoup à vous d'avoir été là pour suivre ce balado des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Seille qui, en compagnie de Mathieu Tessier, vous souhaite une belle semaine. Salut.